les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Contestation au Soudan, report des pourparlers prévus ce vendredi entre les chefs de la contestation et les généraux qui dirigent le pays pour régler les derniers points encore en litige après la conclusion d'un accord sur le partage du pouvoir pendant la période de transition. Nous avons besoin de davantage de consultations pour parvenir à une position unifiée, a affirmé Omar Al-Dighey, un des leaders de la contestation, sans préciser de nouvelles dates pour les discussions. Parmi les questions encore en suspens figure l'immunité absolue réclamée par les généraux au pouvoir concernant la répression des manifestations contre le régime, une demande jugée inacceptable par les représentants de la contestation. Il y a aussi les réserves exprimées par les groupes armés soudanais qui ont combattu les forces gouvernementales pendant des années dans les régions du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud. Plusieurs leaders rebelles, comme le chef du Front révolutionnaire soudanais, Djibril Ibrahim, estiment que des questions clés comme la nécessité d'amener la paix dans les zones de conflit et de venir en aide aux populations vulnérables n'ont pas été traitées dans les négociations. Ebola en République démocratique du Congo, les équipes sanitaires chargées de lutter contre l'épidémie de fièvre hémorragique en RDC doivent élargir la campagne de vaccination anti-Ebola. C'est ce qu'a proposé jeudi la présidente de Médecins sans frontières. Les précisions avec Irénée Herman Umbo.
La Canadienne Joanne Liu a estimé que les responsables de la santé devaient ouvrir les yeux sur la stratégie à suivre pour stopper cette épidémie qui a déjà fait près de 1700 morts en un an. Elle a appelé à l'élargissement de la vaccination. Nous avons adopté entre 2014 et 2015 dans les essais cliniques l'approche vaccinale en ceinture, a-t-elle rappelé, ce qui veut dire que si une personne est infectée, on doit vacciner ses contacts et les contacts de ses contacts. Mais en RDC, le suivi de ses contacts a fait défaut depuis le début, déplore Mme Liu qui pointe du doigt l'urgence de la mise en œuvre d'une stratégie inclusive. Son approche dite géographique exige par exemple que si une personne infectée vient d'un village, il faudra vacciner tout le village. Ebola est maintenant une priorité mondiale pour l'OMS. À Goma, dans l'est de la RDC, les deux postes frontières avec le Rwanda sont restés ouverts. Les mesures de prévention comme le lavage des mains à l'eau chlorée et la prise de températures sont restées les mêmes depuis le début de l'épidémie, le 1er août dernier.
Afrique du Sud, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a mis fin ce vendredi à sa coopération avec la vaste enquête sur la corruption dans le pays pendant son mandat. L'ancien chef de l'État se dit victime de parti pris. Par ailleurs, l'armée sud-africaine est déployée dans plusieurs quartiers sensibles du Cap, la deuxième ville du pays, pour aider la police à rétablir l'ordre après une vague de meurtres et de violences attribuées à des gangs de criminels. Le point avec Abdourahmane Dia.
Plusieurs véhicules blindés ont fait hier leur entrée dans le township de Menenberg, dans l'est de la mégapole. Des soldats casqués et équipés de fusils d'assaut ont commencé à patrouiller à pied. Le chef d'état-major des forces armées, le général Solichok, avait annoncé l'entrée en scène pour 3 mois de l'équivalent d'un bataillon dans les townships des Cape Flats. Lors de la publication des statistiques annuelles de la criminalité, le ministre de la police, Becky Kelly, avait comparé certains quartiers à des zones de guerre. Les soldats sont déployés pour aider la police à rétablir l'ordre et à maintenir la paix dans des communautés qui sont terrorisées par les gangs, a déclaré hier le président Cyril Ramaphosa devant le Parlement. Nous devons sauver des vies, a ajouté le chef de l'État. Avec 57 meurtres par jour, soit plus de 20 000 par an, l'Afrique du Sud figure aux premières places du palmarès des pays les plus violents de la planète.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Côte d'Ivoire, le Parlement a adopté la loi sur la recomposition de la CEI, la Commission électorale indépendante, chargée d'organiser la présidentielle de 2020. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Devant la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement, 24 députés ont voté pour et 16 contre sur les 42 membres. Ce projet de loi adopté en commission doit être confirmé en plénière. Le Parlement compte 255 députés, dont 166 sont issus du parti au pouvoir, le RHDP du président Alassane Ouattara. L'opposition a rejeté le texte. La nouvelle CEI doit comprendre 15 membres contre 17 auparavant. Un représentant du président de la République, 1 du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques, équitablement répartis entre le pouvoir et l'opposition, et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre ivoirien de l'Intérieur, Sidiki Diakité, s'est félicité du meilleur équilibre de la commission. En 2016, la Cour africaine des droits de l'homme avait recommandé au gouvernement ivoirien de réformer la commission électorale. La crédibilité de la CEI est jugée cruciale en vue de la présidentielle de 2020, 10 ans après la crise post-électorale qui avait fait plus de 3000 morts.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Actualité américaine, les États-Unis ont abattu jeudi un drone iranien qui s'était approché d'un navire américain dans le détroit d'Hormuz à l'entrée du golfe Persique. C'est le dernier incident en date dans une région sous haute tension depuis plus de 2 mois. Jean-Roger Bion.
C'est le président américain Donald Trump lui-même qui a annoncé que les États-Unis avaient abattu cet appareil iranien qui s'était approché dangereusement d'un navire américain après avoir ignoré de multiples appels à s'éloigner. La région du Golfe et du détroit d'Hormuz, par où transite le tiers du pétrole acheminé par voie maritime sur la planète, se retrouve au cœur de vives tensions géopolitiques sur fond de bras de fer entre l'Iran et les États-Unis. Après être sorti de l'accord international sur le nucléaire, conclu en 2015, Washington a rétabli des sanctions qui ont fait plonger l'Iran en récession et lui font perdre les acheteurs de son pétrole. Depuis mai, l'Iran a commencé à s'affranchir de certains de ses engagements pour, dit-il, forcer ses partenaires à prendre des mesures garantissant ses intérêts et permettant de préserver l'accord. Berlin et Paris ont appelé séparément Téhéran à respecter pleinement ses engagements. Selon le Guardian, le chef de la diplomatie iranienne Javad Zarif, qui se trouvait jeudi à New York pour des réunions à l'ONU, a proposé des inspections immédiates et plus complètes du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions par Washington. M. Trump a suggéré pour sa part que la pression américaine sur l'Iran pourrait conduire à l'ouverture de négociations. Tout ce que nous voulons, c'est un accord juste.
Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 en Égypte. La finale de cette première CAN à 24 équipes qui va opposer les Lions indomptables, les Lions sénégalais de la Teranga au Fennec d'Algérie, commence à partir de 19h temps universel au stade international du Caire. L'Algérie espère un deuxième sacre continental après environ 30 ans d'attente. Le Sénégal, lui, n'a pas encore une seule étoile à son palmarès dans la CAN et jouera sa deuxième finale 17 ans après la première. Les Lions sénégalais de la Teranga n'ont essuyé qu'une seule défaite dans la CAN 2019 et c'était face au même Fennec d'Algérie, vainqueur 1-0 en phase de poule. Les enjeux de cette finale Algérie-Sénégal avec notre chroniqueur maison, Jules Valentin Goué depuis Libreville au Gabon.
De tout temps, les finales n'ont jamais été des matchs comme les autres. Même lorsque les équipes qui la disputent se sont déjà affrontées en début de compétition, comme c'est le cas pour ce Sénégal-Algérie, dont la première manche en phase de poule a vu les Fennecs dominer aisément les Lions du Sénégal. Au contraire, dans de telles circonstances, le vainqueur du match précédent resserre ses boulons et le sort de la finale obéit à un scénario nouveau. L'histoire de la CAN est riche de situations diverses. Le Congo-Kinshasa, battu par le Ghana en phase de poule, prit sa revanche en finale à Addis Abeba en 1938. Par contre, l'Algérie puis l'Égypte, faciles vainqueurs respectivement du Nigeria en 90 et du Cameroun en 2008, confirmèrent leur victoire en finale, mais à l'arraché. Le plus grand renversement de situation de tous les temps est à mettre au profit de l'Allemagne face à la redoutable équipe de Hongrie de Ferenc Puskás, laminée en poule par le score sans appel de 7-3. Elle gagna la Coupe du Monde 1954 devant le même adversaire avec la complicité de la météo. Score final, 3-2, le hold-up du siècle. Alors, au niveau des forces en présence, que nous réserve cette finale? Certains dans le camp sénégalais s'inquiètent de l'absence du défenseur central Koulibaly suspendu. Il se rappelle qu'au contraire, cela peut motiver son remplaçant en quête de reconnaissance. Cette absence peut aussi amener le coach Alioune Cissé à adopter un dispositif de contre avec marquage haut plus efficace lorsqu'on rencontre une équipe créative comme celle d'Algérie. L'impact physique pendant les duels pouvant dérégler la machine offensive algérienne et la faire retomber dans ses travers traditionnels, en particulier la nervosité. En attendant, trêve de précipitation et place à la réalité du terrain.
Et que le meilleur gagne. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.